Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, RFI vous donne la parole dans 30 minutes. Nous reviendrons sur la victoire de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. La situation, vous le savez, est historique. Si les résultats publiés hier par la commission électorale sont confirmés, la victoire de l'opposant Félix Tshisekedi ouvrira la voie à la première alternance démocratique de l'histoire du pays. Seulement voilà, cette victoire est contestée. Martin Fayoulou, l'autre poids lourd de l'opposition arrivé deuxième, dénonce un putsch électoral, des résultats également contestés par la Conférence épiscopale nationale du Congo. Hier, lors d'une conférence de presse, la CENCO a déclaré que le vainqueur annoncé ne correspondait pas à celui issu de son propre décompte. Les résultats reflètent-ils la volonté populaire? Vos réactions évidemment nous intéressent. Vous nous appelez ici à Paris, 33 9 693 693 70. Vous continuez à poster vos commentaires sur la page Facebook de l'émission, RFI Appel sur l'actualité. Sur le compte WhatsApp 33 6 89 28 53 64. Et comme tous les matins, c'est promis, je lirai quelques-uns de ces commentaires postés pour alimenter le débat et la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité, des questions, des sujets que vous avez certainement entendus dans nos différentes éditions. Vous avez écouté le journal, vous souhaitez un complément d'information, et bien vous nous appelez et nous vous répondons évidemment en direct. On accueille pour commencer Karim, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, oui. Et vous avez des questions concernant le processus de réconciliation en Gambie.
Oui.
Eh bien, on vous écoute.
Alors, d'accord. La commission Vérité et Réconciliation a commencé ses auditions cette semaine en Gambie, en lien avec l'ancien président Yahya Jammeh. Alors, je voudrais savoir dans quelle mesure cette commission pourra-t-elle faire condamner des personnes ayant commis des crimes sous le Yahya Jammeh. Et de deux, quelles conséquences pour les familles des victimes?
Oui. Cette commission mise en place pour faire la lumière sur les violations des droits humains commises, vous le disiez, Karim, pendant les 22 ans du régime Yahya Jammeh. Bonjour Binta Diagne.
Bonjour Juan,
merci,
bonjour Karim.
Merci d'être avec nous, journaliste au service Afrique de RFI. Karim le disait à l'instant, les auditions de cette commission ont débuté lundi à Banjul, dans la capitale gambienne. Quels sont les pouvoirs de cette commission? Est-ce qu'elle peut prononcer des condamnations?
Non, en fait, cette commission Vérité et Réconciliation a pour mandat d'enquêter sur les crimes et les violations des droits de l'homme qui ont été commis pendant les 22 années durant lesquelles Yahya Jammeh était au pouvoir. Les audiences sont prévues pour durer 2 ans, mais cela peut être prolongé si besoin. Cette commission, en fait, c'est pas du tout un tribunal, hein, c'est vraiment une instance qui doit enquêter et qui doit écouter les témoins qui étaient présents lors de ces crimes. Cette commission, à l'issue de ses travaux, elle peut demander, en tout cas recommander auprès de la justice, des poursuites ou des réparations après ces 2 ans de travaux.
Mais en aucun cas, elle pourra,
elle ne peut pas condamner,
prononcer des condamnations. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est cette étude réalisée par Afrobaromètre, qui est une organisation de recherche et d'enquête. Elle a interrogé les Gambiens et 68% des Gambiens interrogés ont déclaré vouloir la poursuite par un tribunal des auteurs de crimes et de violations des droits de l'homme sous l'ancien régime. Et ce sondage révèle, et c'est intéressant de le souligner, que moins de la moitié des personnes interrogées, 46%, ont confiance dans cette commission Vérité et Réconciliation. Karim nous demandait quelles conséquences ces audiences peuvent-elles avoir sur les familles des victimes de l'ancien régime.
Ben, la première conséquence est plutôt d'ordre moral, psychologique, rien que le fait de participer à ces audiences. Pour les familles, c'est déjà une reconnaissance de ces crimes-là. C'est la première fois qu'on parle de ces crimes qui, jusque-là, étaient tabous. Il y a eu beaucoup de disparitions forcées, il y a eu beaucoup d'assassinats de journalistes ou bien de membres de personnes qui étaient dans les forces de défense et de sécurité qui ont disparu du jour au lendemain. Il n'y a jamais eu d'enquête dessus. C'était vraiment, pendant des années, un tabou de rien. De participer à ces audiences-là, ça leur permet de lever un tabou. Ensuite, un des responsables de cette commission expliquait que le but de cette commission, c'était d'éviter que ce type de problème ne se reproduise. Le fait que les gens se parlent sur ces problèmes-là, parce que la Gambie c'est vraiment très petit, ça leur permet un peu d'évacuer d'évacuer ces problèmes qu'il y a.
En tout cas, les différentes organisations de défense des droits de l'homme attendent évidemment beaucoup de ces auditions. Amnesty International dit par exemple espérer que ces audiences permettront de révéler la vérité et de la rendre publique. A-t-on répondu à vos questions, Karim?
Merci beaucoup.
On vous souhaite une bonne journée à Abidjan et merci à Bintadiane, évidemment,
de rien,
d'être venu ce matin vous répondre. Il est 9h16 ici à Paris. Vous nous rejoignez. Vos questions 33 9 693 693 70. Nous avons contacté ce matin Stéphane Lagarde. Vous le connaissez. Il est le correspondant permanent de RFI à Pékin. Bonjour Stéphane.
Bonjour Juan.
Merci d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre à Blaise qui nous a contacté de Boisflay en Côte d'Ivoire. Il a des questions à vous poser sur la récente visite du dirigeant nord-coréen chez son voisin chinois. Bonjour Blaise.
Bonjour Juan.
Bonjour, nous vous écoutons avec Stéphane Lagarde.
Bien, alors, heureuse année à vous et à toute la famille de RFI.
Merci, belle année. Bon, bah, très bien. Belle année à vous également, Blaise. On vous écoute.
Merci. Alors, le président nord-coréen s'est rendu en Chine. C'est la quatrième fois. Mais c'est la toute première fois que cela est annoncé officiellement.
Ouais.
Alors, comment peut-on expliquer cela?
Alors, c'est la toute première fois que c'est annoncé par les médias nord-coréens. Stéphane Lagarde, c'est une bonne question posée par Blaise.
Oui, c'est une très bonne question et ça fait plaisir d'avoir les vœux hein, de Blaise. Merci, bonne année à vous. Oui, alors effectivement, pour la première fois, on a su que Kim Jong-un était parti de Pyongyang. C'est la radio de télévision centrale de Pyongyang qui a annoncé ça. C'est important parce qu'avant, on ne le savait pas, hein, tout simplement. Quand les dirigeants nord-coréens venaient en Chine, en visite, souvent on le savait quand ils étaient rentrés. Hein, on ne le savait pas avant. Là, il y a même eu une vidéo qui a été diffusée par la télévision centrale nord-coréenne où on voyait le départ du convoi, où les gens saluaient le départ du leader nord-coréen. C'est des gros convois, hein, les trains blindés, les trains spéciaux, en tout cas, des dirigeants nord-coréens. Il y a des voitures dedans, il y a beaucoup de choses. Donc c'est quelque chose normalement qui est visible. Mais avant, eh bien, en Chine, on ne les voyait pas et on les suivait parfois sur les réseaux sociaux. On essayait de deviner, tiens, peut-être qu'il est arrivé. Et là, on le savait à l'avance. Du coup, nous, les journalistes, on a pu aller à la gare de Pékin et de le voir en arrivant, donc on a attendu, on a vu passer la voiture, la grosse voiture de Kim Jong-un et tous les bus là qui le suivaient. Donc ça, effectivement, ça c'est une première. C'est une première, c'est un changement dans la communication. Également qu'on voit depuis plusieurs mois Blaise chez le dirigeant lui-même, hein, chez le dirigeant Kim Jong-un, qui a changé de communication, notamment pendant son discours du 1er de l'an là récemment, où on l'a vu en costume occidental, donc parler beaucoup d'économie, hein, l'agence sud-coréenne de presse a compté les mots, il a parlé énormément d'économie, donc il lui dit lui-même qu'il change complètement de stratégie aujourd'hui, qu'il ne suit plus la célèbre doctrine de son grand-père, celle de la double poussée, où il parlait une fois de l'armée et des missiles, et puis après l'économie. Là, il parle essentiellement d'économie, donc il a changé de costume, il a changé de vocabulaire, même si à Pékin, on l'a vu encore, hein, en veste Mao, de style Mao, en tout cas pendant 2 jours. Et donc ce changement, eh bien, on peut essayer de l'expliquer. Effectivement, c'est une très bonne question, Blaise. Pour les médias chinois, c'est clair. Pourquoi la Corée du Nord, pourquoi Kim Jong-un change de communication, de style? Eh bien, tout simplement, c'est pour imiter le modèle chinois, le modèle économique chinois. Hein. Vous savez, ce capitalisme rouge qui fait qu'aujourd'hui, en 40 ans, l'économie chinoise est devenue la deuxième économie du monde. Donc, c'est un modèle à imiter, selon les médias chinois. Et c'est ce que fait Kim Jong-un, qui imiterait aussi, eh bien évidemment, le président chinois lui-même, Xi Jinping, qui lui-même, ici, vu comme quelqu'un qui parle plus naturellement aux gens, qui emploient moins le jargon du Parti communiste chinois, qui parle plus directement. Et donc Kim Jong-un s'inspirerait, selon les médias chinois, de Xi Jinping. Mais pour le fond, j'allais dire, Blaise, rien ne change. Évidemment, les régimes chinois et nord-coréens restent ceux qu'ils sont. Hein, donc ça ne change pas. Et aussi, dernière chose, on a su que pour la première fois, on a su que le dirigeant nord-coréen était parti avant même qu'il arrive en Chine. Par contre, pour le retour, eh bien ça, on a su. Enfin, les comptes rendus ont été donnés simplement à la fin, donc quand il est rentré dans son pays, on a dû attendre qu'il soit à Pyongyang, ce dirigeant, pour que les médias chinois nous fassent un compte-rendu de ces visites. On a su d'ailleurs, seulement hier jeudi, ça a été confirmé officiellement jeudi, que les deux dirigeants s'étaient rencontrés. Avant, on ne savait pas.
Ouais. En tout cas, le dirigeant nord-coréen est rentré mercredi à bord d'un train. Il est rentré dans son pays. Est-ce qu'on a répondu à vos questions, Blaise?
Oui, je suis entièrement satisfait. Vous savez, quand c'est RFI, hein, c'est propre. Hein.
Avec RFI, c'est propre. Bon, bah écoutez, tant mieux. On est là pour vous permettre de mieux comprendre l'actualité grâce à toute la rédaction et notamment nos envoyés spéciaux. Stéphane Lagarde, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi à Pékin.
Merci à vous, merci à tous, merci aux auditeurs surtout.
9h20 ici à Paris, bonne journée. Si vous nous écoutez sur le continent africain, un peu partout en Europe, appelez-nous dans 20 minutes maintenant. Vous pourrez commenter la victoire de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Victoire historique, mais victoire également contestée. 33-9-693-693-70. Nous avons reçu des questions après la décision de la Confédération africaine de football d'attribuer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à l'Égypte. C'est donc la fin d'un long feuilleton marqué, vous le savez, par la décision fin novembre de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun en raison des retards dans les travaux. C'est donc l'Égypte qui aura l'honneur, le privilège et qui devra peut-être relever de nombreux défis d'ici là pour accueillir les équipes africaines de football. Christophe Jousset, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous étiez l'envoyé spécial de RFI à Dakar où s'est tenu le comité exécutif extraordinaire de la Confédération africaine de football. On a également contacté Alexandre Bouchanti, le correspondant de RFI au Caire. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous tous les deux. On va donc passer tout de suite au standard avec une première question qui nous vient de Djamena. Bonjour Leva. Leva, êtes-vous là? Bon, il est là sur mon écran, mais que se passe-t-il? Il ne nous entend peut-être pas. Je vais donc me faire son porte-parole. Ça sera, tiens, une question pour Christophe Jousset. Il nous dit, l'Égypte a-t-elle la capacité d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations à 24 dans un délai aussi court? C'est vrai que la compétition doit débuter le 15 juin. Nous sommes donc à 5 mois. Que peut-on répondre à cet auditeur, Christophe?
Bah, on espère que oui, parce que c'est effectivement le choix que la CAF, le comité exécutif de la CAF a fait, de confier cette organisation dans un délai court. Donc c'est d'autant plus compliqué. C'est la première édition à 24 dans l'histoire de la CAN, qui a commencé en 1957. L'Égypte, oui, a la capacité d'organiser ça en 5 mois. L'Afrique du Sud aussi aurait pu le faire, d'ailleurs, s'il y avait eu vraiment une volonté politique du gouvernement sud-africain pour accueillir ce tournoi. La question clé, bien sûr, quand on a aussi peu de temps, c'est les infrastructures. En 5 mois, on n'a pas le temps de construire des stades. Et il en faut au moins 6 des stades aux normes, rien que pour jouer les matchs de compétition. On ne parle pas là des terrains d'entraînement. Et l'Égypte, comme l'Afrique du Sud, donc, ont déjà ces stades. On estime qu'il y a une bonne dizaine de stades en Égypte, d'au moins 20 000 places, et donc capables d'accueillir les matchs des 24 équipes. La liste des villes hôtes n'est pas encore officielle, donc on n'a pas encore la carte de la CAN 2019, ce qui est un peu normal, hein, parce que ça fait quoi, 72 heures que la décision a été prise. Il y aura probablement 2 stades utilisés au Caire. Alors, 1 ou 2 à Alexandrie, 1 à Ismaïlia, 1 à Port Saïd et éventuellement Suez. Mais bon, le comité d'organisation qui est en train d'être mis sur pied probablement ne travaille pas encore sur une carte donc de la CAN 2019.
En tout cas, les villes que vous venez de citer, Christophe Jousset, ont cet intérêt d'être proches l'une des autres, donc ça limitera les déplacements.
Oui, c'est concentré dans le nord du pays et en plus ces dernières années, depuis la révolution, on a rénové totalement l'autoroute entre Le Caire et Alexandrie. Tout ça est dans le nord. Après, bon, il y a d'autres défis. Hein. Les infrastructures, on a parlé des stades, c'est évidemment très important, mais une autre chose, c'est les pelouses. Donc il faudra sans doute travailler sur les pelouses. Il va y avoir du boulot, hein, faut pas se le cacher. Les hôtels, les routes, les hôpitaux, les aéroports, tout ça c'est disons que c'est validé par la CAF pour jouer cette compétition.
Il va y avoir du boulot, vous le disiez, Christophe Jousset, et le président Hamad, président de la CAF, en est conscient, hein, il disait en conférence de presse mardi, nous savons les défis et les problèmes qui existent, et la CAF compte évidemment sur le soutien des partenaires, notamment de la FIFA. A-t-on répondu à votre question, Leva?
Oui, Alexandre Mouchanti à tout.
Bon, bah écoutez, merci et désolé pour le début, on a eu un problème avec votre téléphone. Alassani nous rejoint, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Lomé?
Oui, je suis à Lomé.
On vous écoute.
Ok. Et les attentats continuent d'être perpétrés en Égypte dans le dernier en date du mois de décembre. Alors, Juan, quelles sont les mesures sécuritaires qui ont été prises par le gouvernement égyptien pour assurer la sécurité de toutes les délégations.
Ouais, c'est vrai que l'Égypte est confrontée à la menace terroriste, mais aussi à la violence dans les stades. Alexandre Bouchanti, vous êtes notre correspondant au Caire. Pour certains observateurs, la sécurité est quand même présentée comme le seul point faible de cette candidature égyptienne.
Et justement, les autorités le savent et les autorités œuvrent beaucoup là-dessus. Alors, elles vont sans doute utiliser le même appareil qui a été testé lors des fêtes de fin d'année. Il y avait 250 000 policiers et militaires qui étaient répandus au Caire, à Alexandrie, à Port Saïd et à Ismaïlia sur le canal du Suez, les villes où il y aura sans doute la compétition de la CAN. Même s'il y a eu un attentat contre des touristes qui a fait 4 morts et contre une église avec un mort, on estime qu'avec un réajustement,
les mesures seront plus efficaces.
Alors, attendez, Alexandre Bouchanti, est-ce que vous m'entendez? Parce qu'on a visiblement un problème avec le réseau téléphone, peut-être rapprochez-vous, avec le réseau internet, peut-être rapprochez-vous du téléphone, qu'on puisse bien vous entendre.
Je passe au téléphone fixe, c'est peut-être mieux?
C'est mieux, on va essayer de tendre l'oreille.
D'accord, donc en fait, oui, il y a eu un attentat contre des touristes qui a fait 4 morts et contre une église avec un mort, un policier, mais on estime au Caire qu'avec certains réajustements, les mesures pourraient être plus efficaces. On parle même de monter à 350 000 policiers et gendarmes. Les autorités vont aussi procéder sans doute à des interpellations préventives dans les milieux islamistes. Alors reste à savoir si les mesures de sécurité qui deviendront sans doute de plus en plus lourdes ne vont pas compliquer la circulation et l'accès au stade. Et si les autorités seront créées et sécurisées et gérées les fan zones.
Ouais. Il y a une autre question qui préoccupe les autorités, c'est évidemment le public égyptien, la violence dans les stades et aux abords des stades. Christophe, je sais, vous qui étiez à Dakar, qui avez pu assister en coulisses à ce comité exécutif extraordinaire de la Confédération africaine de football, j'imagine que la question sécuritaire a été évoquée.
Oui, bien sûr, surtout que le souvenir de cet attentat du 28 décembre contre des touristes vietnamiens était encore frais. La question a été posée au président Hamad quand le président de la CAF, quand il s'est agi d'expliquer le choix porté sur l'Égypte. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a parlé du recrutement récent, il y a une quinzaine de jours, d'un spécialiste sécurité qui travaille à la FIFA et ils vont travailler ville par ville pour mettre sur pied un dispositif de sécurité.
Alors, il nous reste à peine une minute. Alassani, vous aviez une dernière question.
Oui, Juan, exactement. Certains spécialistes s'inquiètent de la chaleur qui frappera le pays cet été. Dans quelle mesure le climat pourrait-il poser des problèmes lors des compétitions?
Ah, il fera chaud, très chaud. On sera donc entre le 15 juin et le 13 juillet, Christophe Jousset, et il fera humide.
Oui, je regardais un relevé des températures du 15 juin dernier, hein, parce que le 15 juin, c'est le début de la compétition, oui. 29 degrés à Alexandrie et 36 degrés au Caire, voilà à quoi il faut s'attendre. Mm-hmm. Donc, vrai défi pour la répétition des efforts, inquiétude pour le niveau du spectacle, la CAF va devoir travailler sur la programmation des matchs, on a quand même 20 matchs de plus que dans l'ancienne formule à 16 pays, donc il va falloir trouver, si l'on peut dire, les heures les moins chaudes de la journée pour de façon à ce que les joueurs soient placés dans les meilleures conditions possibles. Ouais. Mais c'est le choix qui a été fait, hein, de jouer en juin-juillet plutôt qu'en janvier-février. Donc voilà, il faut assumer maintenant.
Enfin, les heures les moins chaudes, on les connaît. On va dire que c'est à partir de 22h, Christophe.
Oui, mais les télés auront aussi leur mot à dire.
Évidemment, je le sais bien. C'est une pointe d'ironie de ma part. Merci Christophe Jousset. Et merci évidemment Alexandre Bouchanti, correspondant de RFI au Caire. Dans un instant, on va retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin et on sera de retour dans 10 minutes. RFI continue à vous donner la parole ce matin après la victoire de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Victoire historique. Pour la première fois, un opposant remporte une élection présidentielle, mais c'est une victoire contestée.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.